fin de mois de novembre, à l'orée du mois de décembre, il y a un événement qui se passe chaque année et qui toujours attire mes regards. Quel est un changement que vous notez dans nos villes fin novembre? Les décorations arrivent. Voilà, on met la lumière. Pendant un mois, on met la lumière. Et moi, je trouve toujours intéressant, finalement, voilà, toc, on va un slideshow, oui monsieur, toc, voilà. Quelle est la source de notre espérance? La lumière? Est-ce que la lumière a besoin d'être allumée un mois? Maintenant, théoriquement, la lumière, elle doit être allumée tout le temps. N'est-ce pas? Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, dans son plan, lui a déterminé quand la lumière... Oula. Comment ça se fait, ça, monsieur? Oui, c'est ça. Je recommence. Dieu, lui, nous a donné la source de la lumière. Et la source de la lumière, c'est quoi? Je vais vous aider, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais en fait, quand on réfléchit, nous, quelle est notre espérance? Alors, ce matin, on a une annonce. Voilà, le fait de trouver un époux ou une épouse. Et c'est pas marqué, celui qui trouve un époux trouve le bonheur, mais messieurs, c'est marqué, celui qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est vrai, hein? Voilà, il savait que c'était mieux dans ce sens. Le fait de trouver un bon travail, tout le monde espère, n'est-ce pas? Déjà, trouver un travail, et en plus, s'il nous faisait la grâce d'être bien ou d'être bon, dans le fait d'avoir des enfants, c'est une grâce. Dans le fait d'être riche, je crois pas qu'il y en ait beaucoup dans la salle, on est riche en Christ, hein? Célèbre, je me voyais déjà, hein, au de l'affiche. Notre espérance, la Bible nous dit que se trouve en Christ seul, dans la célébration de sa naissance et dans l'attente de son retour. Moi, je trouve intéressant qu'on allume toujours la lumière pour annoncer la naissance, mais après on dit plus rien et on éteint les lumières jusqu'à l'année prochaine. On range nos affaires. Le contexte de notre texte ce matin, c'est un contexte difficile. Le roi Akaz, roi de Juda, était attaqué de toutes parts. L'espérance était réduite. Mais Akaz, c'était pas forcément un bon roi. C'est un successeur de David, il est dans sa famille. Mais dans 2 Rois 16, il est dit, la 17e année de Pekach, fils de Remalia, Akaz, fils de Jotham, roi de Juda, régna. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Ils offraient des sacrifices, des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. On est dans un marasme terrible. Tension, le roi qui est au pouvoir n'est pas le bon roi, et pourtant il est de la lignée de David. Et là, l'espérance, elle est partie. Dans Ésaïe 7, 2, j'ai noté, c'est intéressant, il dit, on vint dire à la maison de David, les siens sont campés, Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Quand on apprend une mauvaise nouvelle, on est agité. Et là, c'est marqué, Akaz était agité, mais évidemment, le peuple entier a été agité. Les médias, écrits, parlés, sont au cœur des événements dramatiques. Et alors que nous allumons la télé, que nous écoutons la radio, les mauvaises nouvelles nous arrivent. Et notre cœur souvent est agité. Les élections se profilent. Nous sommes agités. Les difficultés arrivent. Les problèmes arrivent. Nous sommes agités. Parce que quelque part, on dit, mais qu'est-ce qu'il va arriver ? Au verset 3, alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Akaz, toi et cher Jécub, son fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang sur la route des champs du Foulon. » Ce qui est intéressant, mes amis, est-ce que vous avez déjà découvert que quand vous êtes agité, c'est souvent là que Dieu vient vous parler. Et tout à l'heure, notre sœur Sarah donnait ce bel exemple. Hein. Elle n'est pas schizophrène, hein, elle ne s'est pas mise à se parler. Bah alors Sarah, ça va pas. Mais Dieu est venu là et lui dit, mais Sarah, tu me dis que tu es mon enfant, que je t'aime, et voilà. Voilà. Voilà le visage que tu montres. Dieu t'aime et tu dis au monde, bah moi je vous aime pas. Et puis voilà, mon Dieu, il ne m'aime pas. Dieu vient à notre rencontre. Ce n'est pas nous qui allons à sa rencontre. La Bible est extraordinaire, c'est que Dieu prend soin de nous, il connaît nos problèmes. Et il vient souvent taper sur notre épaule. Et reste calme. Reste calme. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à rencontre. Et au verset 4, sois tranquille. Ne crains pour rien. Et que ton cœur ne s'alarme pas. Vous ne croyez pas qu'on gagnerait du temps, de l'énergie à ne pas s'agiter devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétine et de la Syrie du fils de Remalia. C'était pas simple. Et certainement, Akaz avait de la crainte pour lui, mais aussi pour son peuple. Et devant des problèmes qui nous paraissent insolubles, incroyables, humainement impossibles, la question est, je vais faire quoi, moi ? Je vais faire quoi ? Quelqu'un m'a transmis ce SMS ce matin, quelqu'un que j'accompagne, qui m'a dit, Jean-Claude, je n'ai plus d'espérance. Que dois-je faire ? Qu'est-ce que j'aurais pu lui répondre ? Je lui ai dit, la parole de Dieu nous laisse de l'espérance. Parce que notre seule espérance, elle est en Christ. Notre seule paix, elle est en Christ. Notre seule assurance, c'est Christ. Et la Bible nous dit qu'il prend soin de nous, qu'il connaît nos difficultés avant même. Avant même que nous les connaissions. Et si Dieu nous permet de traverser ces choses, c'est parce qu'il sait que nous pouvons les traverser avec sa force. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je me dis souvent, c'est pas le Club Med, là. C'est pas les plages de Guadeloupe, de Martinique, de Bonaire, pour faire une petite occurrence à mon épouse. C'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est quand ça va mal, quand il n'y a plus d'horizon, quand tout est noir. Dieu dit, je me tiens avec toi, ton bouclier me rassure. Tu es là. Sois tranquille. Sois tranquille. Confie-toi en moi. Sois tranquille. Et c'est intéressant que souvent, Dieu nous passe ce message. Sois tranquille. De ce que la Syrie médite de mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville, battons-la en brèche, proclamons-y dans le roi, le fils de Tabaël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Vous imaginez, Dieu est en train de parler à quelqu'un qui ne l'aime pas. Quelqu'un qui fait tout le contraire. Et là, il lui dit, sois tranquille. Je m'occupe. Je m'occupe de ces choses. Cela n'arrivera pas. Alors le verset 9 est intéressant. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Remalia est la tête de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Quand est-ce que finalement nous finissons par tomber, mes amis? Quand est-ce que nous finissons par être complètement paralysés? Quand quelque part nous prenons les choses en charge nous-mêmes? Quand finalement on dit je vais me débrouiller? Vous savez, des fois on reçoit des appels où on veut aider quelqu'un et il dit oh, laisse tranquille, je vais me débrouiller. Et là c'est le signe que est-ce que je peux t'aider? Non. Est-ce que je peux t'accompagner? Non. Est-ce que je peux te conseiller? Non. Bon bah à bientôt alors. Parce que quand tu seras par terre, tu retrouveras mon numéro de téléphone. Et on gagnerait du temps. On gagnerait du temps, n'est-ce pas? À dire au Seigneur, premièrement, aide-moi, et puis au frère ou à la sœur qui vient en disant, bah écoute, j'y arrive plus. Donne-moi un conseil. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? On ne peut pas être à sa place. On ne peut pas être dans les chaussures de l'autre. On ne peut pas être dans son costume. On peut être dans sa robe pour les dames. Mais par contre, on peut, à deux, voir la chose différemment. Et regarder à Christ et dire, voilà la solution que Dieu a préparée. Tu as vu? Ah non, je n'avais pas vu. Mais regardez bien. Il dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. C'est intéressant, non? Nous, les croyants non pratiquants. C'est intéressant, ça, les croyants non pratiquants. On dit, voilà, Dieu me promet, moi, je ne ferai pas ce qu'il me demande. Mais quand tout va mal, on dit, bah, Seigneur, tu fais quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as oublié? Le choix revenait à Akaz. Il pouvait faire confiance à la parole du Seigneur ou tomber entre les mains des ennemis. Ou pire encore, plonger son cœur dans l'endurcissement. Vous n'avez jamais vu que parfois, alors que les épreuves montrent que la difficulté reste, notre cœur y devient... Mais Dieu ne fait rien. Ça fait des semaines que je prie. Il ne fait rien. Il m'a oublié. Il a oublié ses promesses. Et là, des fois, il y a une voix qui revient et fait « Et toi ? Quand la dernière fois que tu m'as parlé ? C'est quand la dernière fois que tu as pris du temps avec moi ? Moi, je trouve toujours intéressant que Dieu n'attend pas qu'on lui parle pour nous parler. Que Dieu n'attend pas qu'on monte vers lui pour venir vers nous. Et pour nous assurer les choses. Je suis là. Je me tiens. J'adore ce verset. C'est pas un verset d'évangélisation. Mais c'est ce verset qui a changé ma vie il y a maintenant 39 ans. Parce que depuis des années, Dieu frappait à la porte. Et depuis des années, je disais non. Non. Et dans sa grâce, un jour, Dieu a tapé peut-être plus fort. Et il a dit, je veux venir chez toi. Mais t'as vu tout? Ok, rentre. Verset 11. Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Alors là, j'ai marqué une petite parenthèse pour ceux qui ne comprendraient pas. C'est la terre ou le ciel, hein. Demande dans les cieux élevés ou sur la terre. Ce que Dieu demande, ce que Dieu attend, c'est pas que nous le tentions. Et d'ailleurs, la réponse va être intéressante. Mais il dit, demande. Demande. Quiconque demande ne reçoit rien. Celui qui demande, reçoit. Et ce que Dieu attend de nous, c'est un dialogue. C'est que Dieu ait contact avec nous. C'est lui le créateur de ce monde, celui qui sait exactement comment la terre fonctionne, comment nous fonctionnons. Il connaît nos pensées, nos paroles. Quand il nous dit « ne pêche pas », il dit « mais puisque tu vas de toute façon pêcher, nous avons un avocat auprès du Père ». Et quand on pêche, on se dit « mais voilà, c'est fichu ». Et le Seigneur revient à la charge et dit « hé, je t'ai déjà dit, il y a un avocat commis d'office gratuit ». Gratuit. Tu n'as rien à payer, c'est même lui qui a payé. Mais on oublie, n'est-ce pas? Et là, on s'enterre, parce que quelque part, on a fait la chose terrible. Et on n'ose plus regarder les frères et sœurs, on ne vient plus à l'église. On ne vient plus au rassemblement parce que, oh là là, je suis horrible. Le Seigneur dit, je t'aime, j'ai payé pour toi. Et là il dit, demande en ta faveur un signe. Moi je suis prêt à te le montrer. Vous savez, des fois, on nous demande de prouver. Après ça, vous savez, je dis souvent les gens qui nous donnent des conseils. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Bah, toi, je ferais ça et ça et ça. Bah, très bien, tu viens avec moi? Oh bah non. Et là, j'ai des doutes quand quelqu'un me dit, va là et qu'il dit, bonne route. Si ça marche bien, tu reviens. Si ça marche mal, je t'ai rien donné. La réponse. Je trouve, Akaz, il est d'une religiosité extraordinaire. J'emploie un mot exprès. Il dit, je ne demanderai rien à l'Éternel. Akaz, il connaît l'écriture. Il connaît l'écriture, Akaz. Mais il n'est pas pratiquant. Il dit, je ne te tenterai pas. Il cite l'écriture. Il dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Il dit, oh, nous ne sauvons pas, moi je n'ai rien à te demander. Réponse religieuse. Et on a vraiment l'impression que M. Akaz, wow, il est bien. En fait, c'est une fausse humilité. En fait, quand Dieu nous propose quelque chose qu'on dit non, vous savez, j'ai eu cette expérience dans ma famille. J'ai été élevé qu'on ne demande rien quand on arrive chez les gens, par politesse. Si les gens nous disent tu as faim, tu as soif, on dit toujours non. C'est comme ça que j'ai grandi. Et j'ai appris à mes dépens. La première fois que je suis arrivé chez les gens aux États-Unis, la première nuit, j'avais voyagé 20 heures. Et j'arrive chez les gens, il était 1h du matin. Et le monsieur, il me regarde et me dit, tu as faim? Et moi, je lui fais la réponse française, non, ça va. Et il me regarde, il fait, alors bonne nuit, à demain. Et là, j'ai appris à mes dépens que si tu as faim, dis-le. Je vais partager ça quelques années après. Il a rigolé tout ce qu'il savait. Et je pense qu'il rigole encore. Maintenant, quand il me demande si j'ai faim et que je réponds non, il dit, bon, assis-toi, tu vas manger. Mais finalement, on est un peu comme ça, non? Honnêtement. Seigneur, le Seigneur nous dit, demande-moi. Non. T'as besoin de quelque chose? Non, je ne veux rien. Ça va, tout va bien. Hein? Imhotep, on dit dans un film. Imhotep. Deutéronome 6, 16. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Et qu'est-ce qu'avait été dit à Massa? L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Le peuple remettait en cause la présence de Dieu. Mais là, Dieu, il est en train de parler avec Akaz. Il lui dit, demande. Et Akaz reprend ce texte, le tourne un peu, et devant une fausse hypocrisie, il dit, non, j'ai besoin de rien. Je ne veux surtout pas te tenter. Réponse hypocrite, n'est-ce pas? On peut être hypocrite, n'est-ce pas, vis-à-vis de Dieu. Mettre une fausse modestie, un faux apparat. Alors là, j'ai commencé à poser des questions. Sommes-nous comme Akaz? On connaît l'écriture. On connaît Dieu, nous. Et quand Dieu vient nous voir et nous pose des questions, est-ce qu'on a la liberté de lui dire et d'ouvrir notre cœur, Seigneur, j'ai besoin? Il faut s'humilier dans ce cas-là, n'est-ce pas? Seigneur, je croyais que je pouvais y arriver tout seul. T'as vu, j'ai essayé, je suis tombé. Seigneur, t'as mis quelque chose devant moi, mais j'y arrive pas. Seigneur, tu vois, il y a une dispute là. Comment je m'en sors? C'est quand même l'autre qui a tort. Hein? Toi, t'avais pas tort quand on t'a crucifié. Mais tu n'as rien dit. Sommes-nous comme Akaz? Nous connaissons les promesses de Dieu, n'est-ce pas? Nous savons ce qu'elles sont. Nous pouvons citer la parole de Dieu par cœur. Connaître des chapitres entiers. Mais, croyons-nous Dieu? Croyons-nous Dieu quand il nous dit, ne crains point. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Ça ne veut pas dire que ça va être simple, les amis. Quand Dieu nous dit, je suis avec toi, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de vent, qu'il ne va pas y avoir de vagues, qu'il ne va pas y avoir un tsunami peut-être. Mais il dit, je suis là, je te tiens. Tu es mon enfant, tu es ma fille, mon fils, ma fille. Je t'aime. Et rien ne peut nous séparer de ton amour. Est-ce que nous avons confiance? Les hommes et les femmes, les jeunes, qui dans ce siècle perdent courage, ils n'ont plus aucun espoir, parce que leur seule force repose sur eux-mêmes. Alors que Dieu leur tend la main. Et alors que nous sommes porteurs de lumière, j'espère qu'on ne brille pas que pendant le mois de décembre. J'espère qu'on ne sort pas nos décorations juste, voilà, pour le mois de décembre et puis de janvier à novembre. Nous restons éteints. C'est pourquoi le Seigneur lui-même. C'est intéressant. Dieu demande à Akaz, donne-moi quelque chose. Non. Alors moi, je vais te donner quelque chose. Et là encore, regardez bien. Un homme qui n'aime pas Dieu, un homme qui est aux antipodes de ce que Dieu fait, Dieu vient vers lui. Et il lui dit, puisque tu ne veux pas me demander de signe, toi, moi je vais t'en donner un. Mais qui ne va pas te toucher toi seulement, mais qui va avoir un impact sur le monde entier. Des fois, nos réponses, la réponse que Dieu nous fait n'est pas uniquement pour nous. Et ce qui est extraordinaire avec la lumière, c'est que quand on allume la lumière, elle ne brille pas que pour nous, mais elle brille pour le monde entier. Le monde entier. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est avec nous et on l'oublie. Dieu nous accompagne. Il n'y a pas d'endroit, vous savez, au début de la vie chrétienne, on a l'impression que Dieu nous accompagne quand on va à l'église, mais quand on va dans certains endroits qu'on avait l'habitude de fréquenter, on dit, là, c'est sûr, Dieu, il est devant la porte. Il n'a pas osé rentrer. Mais Dieu, il vient avec nous, même dans cet endroit-là. Et il dit, oulou, t'as du boulot à faire, là. Allume la lumière. Dis-leur que t'aimes. Oh, non, Seigneur, tant pas eux. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. On l'a chanté tout à l'heure. Emmanuel, Dieu avec nous. Est-ce que Dieu est avec nous tous les jours? À tout moment. Quand ça va bien et quand ça va mal. Est-ce que c'est lui qui part ou c'est nous qui quittons la route? Mais même, vous savez quelque chose, même quand nous quittons la route, même quand on marche à côté, Dieu il revient, il dit, hé, arrête, arrête-toi. Il y a un monsieur un jour, il a crevé. Et malheureusement, il n'avait pas de cric pour changer sa roue. Alors, il est en pleine campagne, et puis il regarde, il se dit, il n'y a personne pour m'aider là. Alors, il rencontre une dame qui lui dit, oh, mais si vous marchez encore 3 ou 4 kilomètres là, dans le village d'à côté, il y a un petit garage qui vous prêtera bien un cric. Alors, le cric, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'outil qu'on se sert pour changer ça. Ou alors le monsieur, il marche. Et puis en marchant, il se dit, mais attends, moi je vais arriver dans un garage là. Je viens de nulle part, le gars il me connaît même pas. Même pas. Et puis je vais lui demander un cric. Et puis comme ça, ma bonne figure, il va me dire, tenez, prenez votre cric. Oh, il marche comme ça. Puis il dit, mais non, si c'est un garage, il argumente, alors un coup il est bien, un coup il est pas mal. Et puis les kilomètres passent. Et puis il arrive devant le garage. Il regarde le garage comme ça, il ouvre la porte, il dit, après tout, votre cric, vous avez qu'à le garder, monsieur. Mais je pense qu'on fait un peu ça avec Dieu, non? Là, Akaz lui dit, hé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien. Rien. Moi, je vais te donner quelque chose. Et quelque chose qui va changer non seulement ta vie, Akaz, parce que tu es perdu, mais quelque chose qui va révolutionner le monde. Et là, il lui dit, Dieu est avec toi. Là, il se tient là. Vous imaginez? Dieu n'est pas l'outil pour changer la route de secours. Mais Dieu est notre vie. C'est lui qui est notre chemin, notre vérité, notre vie. Il n'est pas juste un accessoire qu'on se sert une fois de temps en temps, mais il est celui qui, à chaque instant, nous tape sur l'épaule et dit, ne t'inquiète pas, je suis là, je te donne la paix. Le psaume 46, verset 7 ou verset 8, selon les traductions, dit « L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite, un endroit où je peux me réfugier, où je suis inattaquable. Inattaquable. Alors au verset 13, le prophète dit, écoute donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Est-ce que Dieu perd patience? Ah. Et le prophète, il commence à dire, hé les gars, réveillez-vous. Vous êtes en train de lasser Dieu. Vous l'irritez. Parce qu'il vous offre quelque chose et vous, non? Vous voulez pas. Parce qu'il est en train de vous parler et vous avez mis vos écouteurs. Et vous êtes passé sur Radio FM pour les plus jeunes et sur Nostalgie pour les plus vieux. Vous lassez la patience de mon Dieu. Dieu est patient, lent à la colère. Jour après jour, instant après instant, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, Dieu nous montre son amour. Dieu nous montre qu'il est avec nous. Il est au milieu de nous. Il a même décidé dans sa grandeur d'habiter en nous, de faire sa résidence en nous, et l'Esprit nous rappelle ces choses. Et finalement, on a du mal avec, et nous perdons espérance, espoir. Le psaume 46, 7, il dit, l'Éternel des armées est avec nous. Ésaïe 8, 10 dit, formez des projets, ils seront anéantis, donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Nos ennemis, l'ennemi, veut que nous tombions, veut que nous reculions, que nous ne sortions plus, que nous restions cloîtrés chez nous, que nous pleurions. Que, comme le prophète Élie, nous disons, je suis resté moi seul. Mais Dieu est avec nous, Emmanuel. Dieu est une retraite. Un refuge où je peux aller à n'importe quel moment de la journée. À n'importe quel moment de la journée. Seigneur, j'ai plus de solution. Et à chaque fois que nous disons ça, Dieu dit, ben, écoute, viens vers moi. Parle-moi. Je t'écoute. Parle-moi. Sept cents ans plus tard, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils fussent habités ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph éveillé, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfanté un fils au nom duquel il donna le nom de Jésus, Dieu sauveur. Le prophète avait donné à Akaz le privilège d'annoncer quelque chose qui allait se passer 700 ans plus tard. Et ça s'est réalisé exactement comme Dieu l'avait transmis au prophète. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le but de la venue de Jésus, c'était de nous sauver. De nous donner le moyen de ne plus être sous la pénalité du péché. De pouvoir franchir ce rideau qui nous séparait de Dieu. Et Dieu l'a fait. Vous vous rendez compte la bonne nouvelle que Dieu est en train d'annoncer à Akaz? Cet homme qui était contre lui, mais qui n'a pas voulu écouter la voix de Dieu, qui n'a pas cherché pour lui la réalité, qui n'a pas ouvert la porte, qui finalement est resté dans sa religiosité, dans son humanité, mais qui n'a pas ouvert les yeux de son cœur. Jésus, hein, c'est Jésus, Yeshua, l'Éternel est salut. L'Éternel est salut qui est avec nous. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Hein, Matthieu nous le rappelle. Quand Dieu nous donne sa parole, est-ce que nous la vérifions? Est-ce que nous pouvons vérifier ce que même le pasteur dit? Est-ce que nous pouvons contrôler dans ce que Dieu nous a laissé le témoignage écrit que la Bible dit? On pourrait. Alors frères et sœurs, on allume les lumières, c'est bien. On parle de Jésus, c'est bien. Et encore. Mais la confiance, elle ne peut se placer qu'à partir du moment où Dieu nous... Est-ce que c'est Dieu qui va faire quelque chose? Non, quand nous croyons Dieu. Lui, il nous connaît, il a compassion. Dieu nous offre la solution à nos problèmes, à nos craintes, à nos appréhensions. Jésus, Dieu Sauveur, est avec nous. Il a vécu avec nos restrictions, nos limitations, nos tentations. Le rédacteur du livre des Hébreux nous a dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Et là, le texte nous invite, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Akaz avait besoin de secours. Akaz avait besoin d'une solution. Il était roi, mais il était incompétent. Il avait fait ce qui était mal à l'Éternel. Mais il pouvait se tourner vers Dieu à ce moment-là et reconnaître. Frères et sœurs, on est souvent un peu comme ça, non? Les problèmes sont là, les difficultés sont là. Dieu nous dit, eh oh, j'ai la solution. Mais non, mais non, mais non. T'inquiète. Je s'occupe de tout. Joseph s'étant réveillé, nous l'avons lu tout à l'heure, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous prenons le temps de la méditer, et que nous partons dans notre journée, dans nos difficultés, dans nos transports, avec nos obstacles, dans nos recherches, est-ce que c'est finalement la parole de Dieu que nous mettons en pratique ou les paroles des hommes? Est-ce que nous laissons ce monde finalement s'apitoyer, nous amener dans l'apitoiement en disant rien n'est possible? Êtes-vous sûr que Dieu est avec vous? Et je rajoute même que Dieu est en vous. Sinon, je vous invite à lire l'épître de Jean que nous étudions actuellement derrière, le dimanche matin. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous aviez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu dans Jean 5. On peut être sûr, parce que Dieu démontre son amour jour après jour, instant après instant, dans la difficulté, sur le lit d'hôpital, dans les accidents, mais aussi dans la joie, n'est-ce pas? Quand Dieu répond, quand quelqu'un est délivré de la maladie, quand quelqu'un trouve un emploi. Maintenant, la question que Dieu a posée à Akaz, je nous la pose. Est-ce que nous sommes prêts, nous, dans tout notre orgueil, dans tout notre... Oh non, je peux te demander de l'aide, Seigneur, je suis le chef ici, moi. Seigneur, si je te demande de l'aide, c'est humiliant. Ça veut dire que je peux pas, je suis pas capable. Que Dieu demande. Il a dit à Akaz, demande-moi. Est-ce que nous sommes prêts à demander à Dieu de l'aide? Amen. Pour nos vies, pour nos épreuves, s'asseoir sur les bancs de l'école. Il y a plus de 30 ans, les premières fois où j'ai commencé à réétudier la parole de Dieu, j'étais avec quelqu'un. À chaque fois, le professeur il demandait de faire un petit commentaire sur un texte. Moi, une demi-page, un quart de page me suffisait. Et mon voisin remplissait des pages et des pages et des pages. Et il demandait « Tom, donne-moi une note !» Et je disais « Mais il écrit quoi, lui ?» Et finalement, j'ai pleuré aussi. J'ai dit « Seigneur, je ne vais pas y arriver. Seigneur, je ne suis pas capable. J'ai quitté l'école trop tôt, il y a trop longtemps. Je ne peux plus. C'est cuit !» Et demandé avec lui, je rentrais souvent en disant « Bon, hé, allez, c'est bon. C'est bon, j'abandonne. Je suis mort. Je ne suis pas... » Et à chaque fois, je rentrais dans ma chambre, « Seigneur, je veux te servir !» Et le Seigneur me dit « Oui, je sais bien. Ben oui, mais tu vois, j'y arrive pas. » Et le Seigneur m'a dit « Mais demande-moi. » Un jour, un collègue m'a dit « Mais Jean-Claude, tu pries pour ça ?»« Pour faire mieux que Gilles ?»« Oh ben j'aimerais bien. » Il me dit « Toi, t'es pas Gilles. Toi, t'es Jean-Claude. » Et Dieu va utiliser avec ce que Dieu va te donner. Regarde pas les autres. Demande-moi. Et je crois que c'est la plus belle des choses qu'on peut faire. C'est reconnaître que nous ne sommes pas capables. Nous, par nos forces. Mais que Dieu est capable. Et que si Dieu nous appelle à passer quelque part, à faire quelque chose, il va le faire si on lui demande. Il faut juste ouvrir les yeux. Il faut juste avoir accepté de baisser un petit peu notre orgueil et de dire « Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. » Alors on va prier. Parce que l'objectif de ce message, c'est de nous donner espérance. Et peut-être, voilà, je le fais souvent, mais voilà, on est souvent devant des impossibilités. Devant des prières qu'on prie depuis des mois, des semaines, et rien ne se passe. Et on dit « Seigneur, Seigneur, j'ai tout essayé. » Je sais, mais tu n'as pas encore tout essayé. Tu n'as pas encore tout vu. Et souvent, comme à Case, on lui dit « Non, non, tout va bien. » Et on rentre chez nous et on pleure. Alors on va prier. Et ce que j'aimerais, c'est vraiment avec sincérité de cœur, ceux qui ont besoin aujourd'hui de demander à Dieu de l'aide pour leur situation, pour leurs problèmes, le fassent dans leur cœur. Mais que ils se lèvent et disent « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Le fait de se lever, c'est pas de dire « Je suis plus faible que mes frères et sœurs. » Mais que vous puissiez dire « Comme mes frères et sœurs, comme eux, tu les as aidés. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. » Seigneur Jésus, c'est toi qui es notre espérance. C'est toi seul qui es notre assurance. C'est toi seul qui peut changer nos vies. C'est toi seul qui peut effacer nos dettes. C'est toi seul qui peut nous faire passer tous les tourments que nous pouvons passer. Mais Seigneur, nous l'avons, et je l'avoue, de temps en temps, nous sommes comme à case. Alors que tu veux t'approcher de nous, que tu t'approches de nous, alors que tu veux nous parler, alors que tu veux nous montrer, nous nous enfermons dans cette humilité, dans notre orgueil, dans nos traditions, dans la façon dont nous sommes élevés. Nous refusons ton aide. Mais Seigneur, à l'orée de ce mois de décembre, alors que nous allons célébrer ta naissance, tu as mis sur mon cœur, Seigneur, une nouvelle fois, d'offrir à ceux qui ne l'ont pas une nouvelle assurance, une nouvelle espérance. Le fait que tu seras avec eux, que quel que soit le combat qu'ils vont mener, le combat qu'ils mènent, peut-être depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années. Seigneur, s'ils sont encore vivants aujourd'hui, s'ils sont encore là aujourd'hui, c'est parce que toi tu es avec eux. Parce que toi tu les aimes. Et s'il y a encore des frères, des sœurs qui sont englués, qui sont refroidis, qui ont perdu espoir, qui ont perdu courage, qui finalement baissent le regard, ne regardent plus à toi, mais regardent aux montagnes qui sont à passer, non pas à celui qui les a créés. Alors ce matin, de tout mon cœur, je crie pour que tu parles à nous. Que s'il y a que Dieu vienne l'assister, que Dieu redonne cette espérance, cette assurance, oui. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aimerait que je prie pour lui? Oui. Dieu est un Dieu qui répond. Sa parole ne revient jamais sans avoir donné ses effets. Y a-t-il encore quelqu'un qui aimerait que je prie pour lui ou pour elle? Que Dieu, oui. Que Dieu vous accompagne, mes amis. Dieu est un Dieu de paix. Dieu nous connaît mieux que nous. Dieu sait exactement de quoi nous avons besoin. Mais Seigneur, tu vois ces mains qui sont montées vers toi. Toi, tu les as vues, Seigneur. Tu les as identifiées. Et aujourd'hui, Seigneur, tu leur offres ton assistance. Seigneur Jésus, glorifie-toi dans leur vie. Permets que, même si nous pouvons identifier, être identifiés, pouvoir les aider comme famille, de pouvoir les entourer, de pouvoir prier avec eux, de pouvoir prier pour eux, et de pouvoir voir, Seigneur, ce que toi tu fais dans leur vie. Seigneur, tu bâtis ton église, Seigneur, tu es notre Père, et nous sommes ta famille, nous sommes tes enfants. Seigneur, tu dis que nous sommes comme la prunelle de tes yeux, alors ces mains qui se sont levées vers toi, sont ceux que tu vas accompagner dans les jours qui viennent, pour te glorifier dans leur vie, et pour les accompagner, au nom de Jésus-Christ.